Je rappelle un fait, hélas oublié, mais qui me semble particulièrement illustratif de cette dérive judiciaire. Le financement de ma campagne de 2007 avait déjà fait l'objet d'une enquête très approfondie dans le cadre de l'affaire Bettencourt. J'avais donc déjà été suspecté et même mis en examen pour avoir prétendument reçu de l'argent de Liliane Bettencourt. L'instruction avait tourné court. Le juge gentil n'ayant, et pour cause, pas trouvé le moindre centime de liquide dans le financement de ma campagne, j'avais bénéficié d'un non-lieu. Et le magistrat avait précisé dans son ordonnance que toutes les factures contrôlées de ladite campagne n'avaient donné lieu à aucune irrégularité. Malgré cela, une nouvelle instruction était confiée, cette fois au juge Tournaire, sur les mêmes aberrations, avec cette fois comme bienfaiteur prétendu Kadhafi et non plus Liliane Bettencourt. Mais depuis, combien d'argent a été dépensé en pure perte pour le seul objectif de démontrer ma culpabilité à tout prix, sans que jamais on puisse trouver le moindre élément matériel justifiant ou simplement crédibilisant cette dernière. Ce serait risible si ce n'était pas à ce point dramatique. Et moins on trouve de preuves, plus on s'obstine, allant jusqu'à me jeter en prison. Dois-je me taire? Dois-je baisser la tête? On ne peut pas me le demander. Et d'ailleurs, je ne le ferai pas, parce que ça serait trop grave, trop lourd de conséquences, trop contraire à l'idée même de l'état de droit. J'ai bien perçu cette atmosphère de peur que faisait régner ce combat mené par une minorité au travers de l'attitude de nombre de responsables politiques, au premier rang desquels se trouvaient mes propres amis. Tous étaient persuadés de mon innocence et de l'injustice profonde du traitement qui m'était réservé, mais peu le manifestèrent publiquement, par crainte de mesures de rétorsion. On en est là, dans la France de 2025. Les plus courageux déclaraient leur soutien à ma personne comme à ma famille et saluaient même mon bilan d'ancien président. C'était gentil, mais cela n'était pas le problème. Je recevais ces condoléances comme une façon de dire sans le dire. Cette solidarité bon marché masquait péniblement une peur panique. Le seul dirigeant de ma famille politique qui a demandé à venir me visiter en prison aura été Michel Barnier. Nous n'étions pas spécialement proches, même si je l'avais nommé ministre puis commissaire européen comme représentant de la France. Mais pour l'occasion, il était plus courageux que je ne l'aurais imaginé. Il fut l'une des bonnes surprises. J'ajouterai que le formidable travail de défense d'Henri Guénaud m'a beaucoup aidé. Il s'est déployé avec son intelligence habituelle du matin au soir. Renaud Muselier et Christian Estrosi ont été des amis merveilleux, tout comme François Barouin, Christian Jacob, Philippe Briand. Philippe de Villiers fut, comme toujours, un lutteur que rien ne peut intimider. Enfin, j'ai apprécié François-Xavier Bellamy, que je découvris pour l'occasion doté d'un réel courage bien utile dans les instances européennes. Et aussi David Lisnard, qui dès le début de l'affaire s'est engagé à mes côtés sans aucune ambiguïté. Bruno Retailleau m'appela régulièrement, mais n'en fut publiquement pas davantage. Laurent Wauquiez se manifesta aussi, mais ses prises de position publiques furent prudentes, et surtout moins tranchées que celles de Gérard Larcher, qui osa affirmer que l'exécution provisoire posait un problème. En effet, je n'en veux pas à ceux qui n'ont pas été particulièrement courageux. Chacun fait comme il peut ou comme il veut. Mais comment espérer être un leader politique si on a peur? Et surtout, si on le montre? J'ai réussi à être élu président de la République, moins par mon talent que par mon audace. Cette dernière est sans doute la caractéristique la plus rare à l'époque des réseaux sociaux, des polémiques à répétition, des smartphones qui filment et espionnent à tout moment. Mais elle est centrale pour celui ou celle qui aspire aux responsabilités les plus élevées. Finalement, les meilleures surprises sont venues de ceux que j'attendais le moins. Marine Le Pen fut de celle-ci. Elle avait appelé à voter contre moi en 2012 et donc pour François Hollande, ce qui ne m'avait pas plu. J'avais capté son électorat populaire, elle me considérait à juste titre comme son principal adversaire. J'avais en outre toujours refusé le moindre accord avec son père, elle-même et son parti. C'est dire que les contentions entre nous étaient nourries et nombreuses. Certes, le contexte judiciaire pouvait nous rapprocher. L'application d'une peine d'inéligibilité provisoire avant son appel équivalait à lui interdire l'élection de 2027, ce qui était particulièrement choquant. Mais me soutenir était pour elle un risque plutôt qu'un avantage, à quelques mois de son propre procès en appel. J'ai apprécié ses déclarations publiques à la suite de ma condamnation, qui étaient courageuses et dépourvues de toute ambiguïté. Je lui ai donc téléphoné pour la remercier. C'était notre premier contact depuis fort longtemps. Au cours de la conversation, elle m'a interrogé sur la situation politique. Je lui ai répondu que ma conviction était arrêtée, les élections législatives anticipées n'étaient qu'une question de semaines, je ne voyais pas comment le président Macron pourrait y échapper, j'ajoutais que je ne croyais pas en la démission de ce dernier, ce qui renforçait encore la probabilité de cette perspective. Elle me répondit « Votre voix porte sur l'électorat de la droite populaire. Vous associeriez-vous à un quelconque front républicain ?» Ma réponse fut sans ambiguïté « Non ». Et de surcroît, je l'assumerai en prenant le moment venu une position publique sur le sujet. Elle termina en me chargeant d'un message pour Carla. « Dites à votre femme que j'ai admiré l'élégance avec laquelle elle a jeté à terre la bonnette du micro de Mediapart. Elle l'a fait avec une classe et une douceur remarquables. Marine Le Pen avait raison. Le geste de Carla était devenu viral sur les réseaux sociaux. J'aurais été incapable de le faire aussi bien. Je ne l'avais d'ailleurs pas vue alors que j'étais à côté d'elle à la sortie du tribunal correctionnel. Une petite initiative pouvait avoir un retentissement national. Carla démontra qu'il était possible d'être cinglant sans être violent, ce fut une leçon utile pour moi. Ce que l'on a coutume d'appeler le bloc central fut particulièrement silencieux, du moins dans son expression publique. Je reçus beaucoup de lettres et d'appels, mais la quasi-totalité restait dans le domaine privé, s'abstenant de toute prise de position officielle. On n'est jamais trop prudent. La gauche fut sans surprise. Sourcilleuse à l'extrême quand il s'agit des droits de ses amis, elle foulait aux pieds ses convictions lorsque les miens étaient en cause. C'est toujours fascinant de voir la méchanceté débridée, surtout lorsqu'elle est gratuite, puisque je n'étais plus un compétiteur. J'étais en prison, je ne pouvais donc pas répondre. Cela n'empêcha pas Ségolène Royal d'affirmer, sans rire, qu'elle avait perdu l'élection de 2007 à cause de l'argent de Kadhafi. Plus c'est gros, plus cela passe. Et avec elle, ce n'est jamais assez gros. À son crédit, je dois dire que je ne suis pas certain qu'elle comprenne toujours le sens de ce qu'elle dit. Cela sauve Ségolène Royal de la honte. François Hollande, drapé dans sa dignité, rappelait qu'il ne fallait jamais critiquer une décision de justice, oubliant que dans un échange filmé en 2010, il interrogeait son ami Edouard Plenel. On a les relations que l'on mérite. En lui demandant à mon sujet, « Alors, tu n'as pas encore arrêté le délinquant ?» Ce à quoi Edouard Plenel répondait qu'il faisait son travail en termes de république impartiale. On a fait mieux. Je fus à l'inverse surpris du courage et de l'intelligence de deux personnalités pourtant peu réputées pour être de mes amis. Jean-Michel Apathy prit ma défense au nom de ses principes et de ses convictions. Il considéra donc que la loi avait été doublement violée, d'abord par un jugement incohérent dans son raisonnement comme dans ses décisions, ensuite par une sentence d'incarcération provisoire qui ne respectait aucun des critères requis. Il réitéra ses prises de position à plusieurs reprises, avec beaucoup de finesse et une réelle bravoure. De surcroît, il n'hésita pas à le faire en milieu hostile, dans l'émission quotidien. J'ai découvert en lui un homme de médias doté d'une colonne vertébrale. J'ai beaucoup de désaccords avec lui, mais cela ne m'a pas empêché d'admirer son courage. Le second était Franz-Olivier Gisbert, qui avait pourtant écrit quantité de livres parfaitement désagréables sur mon action comme sur ma personne. Ses convictions étaient si heurtées par l'attitude des magistrats qui m'avaient jugé que cela déclencha en lui une véritable rage de me défendre, allant jusqu'à dire sur le plateau du quotidien l'animateur principal « Eh bien, au moment de l'affaire Dreyfus, on voit bien de quel côté vous auriez été !» Lequel en resta bouche bée, incapable de formuler une réponse articulée sous le choc de l'attaque à laquelle il n'était visiblement pas préparé. Tous ces gens ignoraient ce que cela signifiait de recevoir des coups, eux, qui avaient tellement l'habitude de les donner en toute impunité. Être le gibier ou le chasseur était loin d'être la même affaire. Franz-Olivier Gisbert fut un défenseur acharné, intelligent et pertinent. Il y eut aussi des déceptions, moindres, parce qu'il s'agissait de personnes dont je n'attendais rien ou pas grand-chose. Sachant par avance qu'il s'agissait de tempéraments agréables, parfois intelligents, mais tellement attachés à leur image que pas un mot sincère ou courageux ne sortirait de leur bouche. J'eus rapidement confirmation de ce pronostic qui s'avéra lucide. Cela ne donnait à mes yeux que plus de valeur aux témoignages de milliers et de milliers d'anonymes qui m'écrivaient de façon souvent bouleversante. J'aurais pu tapisser les murs de ma cellule de toutes les cartes postales de paysages magnifiques qui m'étaient envoyées pour l'enjoliver et l'égayer. De cet endroit où ma vue se limitait à une palissade en plastique de 3 mètres de hauteur, fixée à 1 mètre de mes fenêtres, j'appréciais d'autant plus ses attentions. Beaucoup affirmaient « prier pour moi » et m'appelaient à la patience, me promettant le retour des jours heureux. C'était touchant, sincère, et surtout cela témoignait d'un lien humain profond et durable, alors que j'avais quitté le pouvoir 13 années plus tôt. La persistance de ce lien affectif et de ce soutien populaire m'était d'un grand secours. Grâce à ma famille et à ces Français, je ne me suis jamais senti seul, ou encore moins abandonné. J'avais bien conscience que ce privilège était aussi rare que précieux. J'ai eu aussi la bonne surprise de découvrir que le monde des journalistes et des médias était moins frivole et cynique que je ne l'avais longtemps pensé. J'ai été accro à cet environnement. Je lui ai sans doute accordé trop d'importance. J'ai souvent confondu les relations professionnelles et l'amitié. J'étais trop jeune et pas assez expérimenté. Par la suite, et à l'inverse, je l'ai détesté autant que je l'avais aimé. C'était excessif, dans un sens comme dans l'autre. Je m'étais d'abord vu adorer des médias, leur petit prince en quelque sorte. Je m'étais ensuite imaginé être détesté par les mêmes, le diable en personne. En vérité, je me trompais 2 fois. J'avais désormais une vision plus apaisée de ce monde. Le paroxysme de la situation qui m'était imposée mettait les sentiments et les personnes à nu. Il n'y avait plus de comédie. C'était grave, car il s'agissait de la liberté d'un homme. Il ne s'agissait plus seulement de politique. J'ai vu des réactions qui m'ont profondément touché et ému. Je me souviens de ce dimanche si triste à la Santé, où j'ai pu découvrir le billet de Pascal Pro dans le journal du dimanche. Je pense à lui. Je l'ai lu comme la lettre d'un ami cher qui souffrait à ma place et imaginait ce qu'il en adviendrait s'il avait lui-même à affronter une telle épreuve. Les éditoriaux courageux de Laurence Ferrari m'ont particulièrement touché. J'ai été très impressionné par la violente prise de position après ma condamnation du très calme Alexis Brézet, le directeur du Figaro. J'ai honte de la France. Fallait-il que le choc soit violent pour que cet homme sage et pondéré en arrive à ce point d'exaspération. Je pourrais dire la même chose de Vincent Trémelet de Villers. J'ai eu beaucoup d'autres témoignages humains et donc touchants de journalistes que je connaissais à peine, jusqu'au très militant Patrick Cohen, qui adressa un message à Véronique Wachet pour qu'elle me transmette ses pensées amicales au moment de mon incarcération. Il ne s'en est pas vanté publiquement. Et a même par la suite fait plusieurs interventions peu amènes. Le courage a ses limites. Mais disons que j'ai apprécié son geste. Au final, c'était le spectacle de la comédie humaine, dans ses grandeurs et ses petitesses. Ni plus, ni moins. Dans cette vie politique tellement déstabilisée, sans cap, sans boussole, sans leader, chacun essayait comme il le pouvait de tirer son épingle de ce qui n'était hélas plus un jeu. Je ne leur en voulais pas. Ce monde a été le mien. Je connais d'expérience les sacrifices qu'il impose à ses acteurs. Je ne le renierai jamais. Mais les soldats de la politique étaient en train de payer cher la faiblesse de leur chef. Les Chinois n'ont pas tort de dire que le poisson pourrit par la tête. Il y a peu de secteurs où le leadership est plus nécessaire que dans la politique. Elle est le domaine du vertical, pas de l'horizontal. Un chef, une équipe, un projet, je ne connais rien de plus simple et surtout rien de plus efficace quand on veut accéder aux responsabilités suprêmes. Quand les chefs défaillent, les soldats perdent leur repère. Je craignais mon premier dimanche à la santé. C'était un jour sans aucune visite, ni de la famille, ni des avocats. La solitude complète. Mon fils Jean eut l'idée de demander à l'aumônier de la prison de la santé s'il pouvait me rendre une visite. Je mentirais, en prétendant que je piaffais d'impatience à l'idée de le rencontrer. Mais un rendez-vous dans la journée, c'était mieux que rien. Et puis j'éprouvais une certaine curiosité. À 9h30, je retrouvais ce serviteur de Dieu dans le parloir du quartier des détenus à l'isolement. Il s'agissait d'un homme de moins de 50 ans, à l'allure particulièrement juvénile. Il portait un jean, des mocassins et un haut de Claire Jiman qui indiquait clairement son appartenance à l'Église. Sa barbe était soigneusement taillée. Je le sentais timide, réservé et d'une grande douceur qui s'exprimait par un large sourire et une voix apaisée. La conversation s'engagea aisément, librement et sans le moindre protocole. Il marquait de nombreuses pauses pour bien ajuster chacune de ses paroles. Nous parlâmes de religion, du pape, des églises dans la campagne, au début, sans aucune connotation trop intime ou trop personnelle. Je lui étais reconnaissant de faire preuve d'une telle réserve. Je n'aurais pas aimé qu'il soit trop intrusif alors que nous ne nous connaissions pas. Je dois même admettre que c'est moi qui avais fini par engager la conversation sur des questions plus intimes. Je lui demandais les raisons qui l'avaient amené à exercer son ministère dans un tel endroit. Il me confia qu'il était un homme des marges, qu'il les avait toujours aimés, et qu'avec la prison, il était servi. Il poursuivit. Le mal existe, et ici il est très présent. Mais la bonté aussi, elle existe même dans les personnalités les plus noires. Et chaque fois que je rencontre la bonté, je trouve le mystère de Dieu. La bonté comme preuve de la présence de Dieu, c'était intéressant. La vie de ce prêtre était à l'unisson de sa pensée. Il me précisa qu'il vivait dans un foyer pour personnes sans abri, aux côtés des bénévoles de l'association. L'ensemble faisait ressortir une personnalité originale, attachante et intéressante. Nous demeurâmes ainsi pratiquement une heure et demie à échanger. Cette conversation libre nous avait rapprochés. Je commençais même à éprouver une réelle sympathie pour cet homme dont la bonté irradiait chacune de ses phrases. J'ai fini par lui demander s'il célébrait la messe en prison. J'appris à cette occasion qu'il n'y avait pas de chapelle à la santé et qu'en conséquence, le gymnase faisait office de cathédrale. Ce fut son expression. Le prêtre me confia que parmi la cinquantaine de ses paroissiens, tous ne venaient pas pour des raisons parfaitement chrétiennes. Il s'agissait pour certains d'une opportunité de sortie, de rencontre, ou même parfois d'échange de cannabis, mais plus rarement de prier. Mais finit-il par ajouter « peu importe », car pour chacun cela peut être une occasion de rencontrer Dieu. Sa conclusion fut cependant assez radicale. « Je ne suis pas sûr que votre venue à la messe soit une bonne idée. Cela pourrait mettre trop d'animation. » Je lui répondis que de toute façon, jamais les autorités pénitentiaires ne me laisseraient au milieu de plusieurs dizaines de détenus pour des raisons de sécurité. Je lui confessai que si cela avait été possible dans un autre contexte, j'aurais été heureux de participer à l'une de ces célébrations. Il ajouta presque timidement que si je le souhaitais, mais il ne voulait en aucun cas me l'imposer, je pouvais communier. Je réfléchis un instant, surpris par son invitation, et finis par répondre « mais pourquoi pas ?» Il sortit alors un petit récipient vert de sa poche, contenant deux hosties soigneusement emballées et qu'il avait préalablement préparées. La situation était pour le moins étrange. Je me trouvais dans cette petite salle si triste et banale, autour d'une table fixée au sol par des plaques, enfermée avec un prêtre que je ne connaissais pas une heure avant et sous le contrôle vigilant des surveillants de la prison. Je m'apprêtais à communier pour la première fois depuis de nombreuses années. J'en étais heureux et même ému. Ce fut la célébration la plus courte à laquelle il m'a été donné d'assister. Nous commençâmes par dire un Notre Père, un Je vous salue Marie, puis nous nous recueillîmes ensemble un long moment. Le silence régnait, je communiais avec une certaine ferveur, puis nous demeurâmes sans parler. Ce silence était apaisant, surtout dans cet univers tellement violent. Nous nous quittâmes en nous promettant de nous revoir le dimanche suivant, plutôt à 11 heures, me précisa mon nouvel ami. Carla et Jean furent heureux quand je leur racontai cette rencontre spirituelle inattendue. Était-ce le signe que j'attendais? Je l'ignore, mais cela me permit de passer ce dimanche de solitude annoncée avec une grande tranquillité d'âme, en soi. C'était déjà une victoire inattendue et heureuse. Certains pourront ironiser sur cette forme de conversion subite. Ils l'interpréteront sans doute comme un signe de faiblesse, au mieux passagère. Peu m'importe, puisque ce sont les sentiments que j'ai profondément ressentis. Je me suis engagé sur la vérité de ce récit. Cette partie de mon témoignage y participe. J'ajoute qu'avant de juger, chacun devrait prendre le temps de réfléchir à l'enfermement, au face-à-face avec soi-même qu'il impose, à la disponibilité d'esprit qui l'autorise et qui permet de percevoir de nouvelles émotions. La prison fut pour moi une épreuve que j'ai essayé de rendre la plus productive possible. On a coutume de dire que l'on apprend à tout âge. C'est vrai, car j'ai beaucoup appris à la santé, sur les autres comme sur moi-même.